France Info.
J'appelle là, en sortant de ce studio, tout de suite Météo France pour faire un point avec eux.
La météo en direct et vous nous donnerez donc la suite, le prochain épisode dans 10 minutes après un premier journal. Merci beaucoup Christine Peña et merci à tous d'écouter France Info. Il est 5h. Et à la une de ce 10 février, des parents qui saisissent la justice après la découverte de toxines dans du lait infantile, ils s'insurgent que ce soit Nestlé qui fasse les analyses et pas un laboratoire indépendant. À la une aussi ce matin, un adolescent jugé à Marseille à partir d'aujourd'hui, accusé d'être un tueur à gages et du meurtre d'un chauffeur de VTC. Nous serons en Norvège où des figures politiques sont au cœur de l'affaire Epstein. Nous serons à Cuba où il n'y a quasiment plus de pétrole. Et puis dans ce journal, une page JO avec le très bon départ de Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, le duo de patineurs français. C'est une information de la cellule investigation de Radio France. Un peu plus de 2 mois après le premier appel de lait infantile Gigoz de la maison mère Nestlé, contaminée par une toxine potentiellement dangereuse, 24 familles portent plainte contre les industriels pour avoir tardé à retirer les produits et dénoncent l'inaction des autorités sanitaires pour établir le lien entre la consommation de ces produits et la maladie de leur enfant. Marie Dupin, ses familles, elles accusent les autorités de ne pas mener les investigations nécessaires et de leur demander même de renvoyer les poudres de lait à Nestlé.
Oui, et parmi ses parents, Apolline, maman d'Auguste, 5 mois et demi. Début janvier, elle découvre que le lait Gigoz de son bébé, malade depuis plusieurs semaines, est contaminé par une toxine. Elle demande alors des analyses officielles aux autorités. Et voilà ce qu'on lui répond.
J'ai reçu un appel pour me dire que Nestlé allait venir récupérer mes boîtes pour pouvoir les analyser. Donc moi, je lui ai fait part de mon mécontentement et surtout que je n'étais pas d'accord, puisque moi, mon souhait, c'est de faire analyser les boîtes de lait par un laboratoire indépendant et neutre.
Malgré son refus clairement exprimé, Apolline reçoit après cette conversation un mail de Nestlé avec un bon de retour pour renvoyer le produit contaminé. Et elle n'est pas un cas isolé. De nombreuses familles dont les enfants ont parfois été hospitalisés racontent la même histoire, inacceptable pour leur avocate, maître Nathalie Goutalan.
Ce n'est absolument pas au fabricant d'un produit suspecté d'avoir rendu un enfant malade d'analyser ce produit. Et le plus troublant, le plus grave même, c'est que cette consigne soit donnée par les autorités. Ce n'est conforme ni à la réglementation européenne, ni aux procédures françaises.
De son côté, le ministère de l'Agriculture assure que dans cette situation, les laboratoires des fabricants sont adaptés, précisant que des expertises officielles pourront intervenir ultérieurement.
Enquête signée Marie Dupin de la cellule investigation à retrouver sur franceinfo.fr en longueur. Il s'appelait Nessim Ramdan. Il était chauffeur VTC. Il a été abattu au volant de sa voiture à Marseille en octobre 2024 et le procès du suspect s'ouvre aujourd'hui et le profil interpelle. C'est un adolescent. Il avait à peine 14 ans au moment des faits, recruté comme tueur à gages par un détenu qui se présentait comme un membre de la DZ Mafia, détenu qu'il a ensuite dénoncé. Le procès à huis clos s'ouvre donc aujourd'hui. Il durera 2 jours devant le tribunal pour enfants de Paris. Mathilde Vinceneux, vous avez rencontré pour France Info la compagne de la victime Nessim Ramdan, qui sera présente à l'audience.
Nessim Ramdan, 37 ans, n'avait rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Entraîneur de foot amateur, il cumulait les emplois et avait choisi de déménager pour éloigner ses 3 enfants de la violence, raconte Mélanie, sa compagne.
On a quitté Marseille pour ça. On n'était pas loin des quartiers. On a grandi nous-mêmes dans des quartiers.
Et pourtant, Nessim Ramdan a été tué d'une balle dans la tête au petit matin alors qu'il conduisait dans son VTC un adolescent de 14 ans. Le mineur explique qu'il cherchait la cible qu'il devait abattre quand il a finalement tiré sur le chauffeur. Mélanie, elle, se dit terrorisée à l'idée qu'un jour ses enfants comprennent que leur père a été tué par un autre enfant à peine plus âgé qu'eux.
Pourquoi il a fait ça? Ça pourrait être mon fils, quoi, en fait. Mes fils, ils ont 12 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de mes enfants maintenant.
Aide-soignante, Mélanie n'arrive plus à travailler et doit gérer seule ses 3 enfants. Comment accompagner ses victimes, demande son avocate, maître Anne Santana-Marc.
Devant la recrudescence de ces victimes dites collatérales du narcotrafic, pourquoi ne pas envisager un statut, une protection par l'État de ces enfants qui se retrouvent, en tout cas pour ceux de Nessim, orphelins de père?
Ce meurtre doit tous nous interroger, martèle l'avocate. Il pose aussi la question du rajeunissement des criminels. Comment un ado de 14 ans a-t-il pu devenir tueur à gages ?
Un adolescent de 14 ans qui désormais risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle à son procès. Les répercussions en Europe de l'affaire Epstein continuent. Au Royaume-Uni, le roi Charles se dit prêt à aider la police alors que de nouvelles révélations ont été faites sur son frère, l'ex-prince Andrew. Il est soupçonné d'avoir potentiellement transmis des rapports confidentiels à Jeffrey Epstein en 2010. Autre monarchie européenne concernée par ce scandale, la Norvège. Les millions de pages publiées par le ministère américain de la Justice qui mettent en lumière des liens parfois très étroits entre le criminel sexuel et une partie de l'élite du pays. Tout cela allant de la princesse héritière à un ancien président du comité Nobel, en passant, Louise Baudet, par un couple de diplomates célèbres qui est sous le coup depuis hier d'une enquête de police.
Ils ont été les artisans des accords d'Oslo au début des années 90. Mona Hull et Terdi Rudlarsson sont aujourd'hui soupçonnés de corruption aggravée. Leur lien avec Epstein remonte aux années 2010, alors que Mona Hull est ambassadrice au Royaume-Uni. Élément à charge, c'est 10 millions de dollars légués par Epstein à leurs deux enfants dans le testament qu'il rédige à l'avant-veille de sa mort. Également impliqué, Thorbjørn Jagland, ex-premier ministre devenu président du comité Nobel norvégien et secrétaire général du Conseil de l'Europe, lui aussi en contact étroit avec le criminel sexuel qui lui paye nuit d'hôtel, vol en jet privé et séjour à Palm Beach. Un autre Norvégien, patron du Forum économique mondial de Davos, est cité. Sans oublier le plus choquant pour le royaume scandinave, l'implication de Mette Marit, l'épouse du prince héritier, dont le nom apparaît un millier de fois dans les Epstein Files. La dizaine de personnalités impliquées appartiennent toutes à des institutions clés d'un pays qui se targue d'être l'un des moins corrompus au monde. Pays où la confiance, vertu cardinale, est désormais entamée chez plus de 3 Norvégiens sur 4.
Précision de Louise Baudet sur France Info. Cuba au bord de la panne sèche. De nouvelles restrictions destinées à économiser le carburant sont mises en place dans le pays car il n'y a quasiment plus de pétrole. En cause, la pression des États-Unis qui interdisent tout ravitaillement de pétrole dans le pays. Aucun pétrolier venu du Venezuela n'a d'ailleurs accosté depuis la fin décembre et la chute du régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Et les 10 millions de Cubains essayent désormais tant bien que mal de vivre malgré cette pénurie de pétrole, Isabelle Labéry.
La situation est extrêmement difficile.
Eduardo Canciano, 79 ans, il a été maire de la vieille Havane. Aujourd'hui, étrangement calme, les stations-service sont à sec.
Il y a moins de bus et les fréquences sont réduites. Le train aussi circule moins souvent. C'est pour ça que certaines entreprises travaillent seulement 4 jours par semaine et on encourage le télétravail.
Des sacrifices encore pour tenir le plus longtemps possible.
Les États-Unis cherchent à provoquer un soulèvement populaire et à renverser le gouvernement. Mais ils n'atteindront pas leurs objectifs. Nous allons résister.
Fernando González Llorente préside l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Lui aussi est resté fidèle à l'idéal révolutionnaire, mais il veut croire que Cuba ne sera pas laissé seul face à l'agresseur américain.
De quel droit le gouvernement des États-Unis viole-t-il toutes les normes internationales ? Je crois qu'il y aura dans le monde un mouvement collectif de dénonciation de cette atteinte profonde aux droits du peuple cubain.
Mais même le Mexique, deuxième fournisseur du pays, a suspendu ses livraisons de pétrole.
Un témoignage recueilli par Isabelle Labéry. Une amende très salée pour la SNCF. La compagnie ferroviaire est condamnée à verser plus de 270 millions d'euros pour rupture de contrat. Une filiale du groupe Mulier, la maison mère d'Auchan, pour avoir abandonné un projet de rénovation XXL de la gare du Nord à Paris. La SNCF fait appel de cette décision. Et puis ça sent très bon, JO de Milan-Cortina pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. Le duo français a terminé hier en tête du programme de danse rythmique en danse sur glace. Il devance les Américains Madison Chock et Evan Bates, les triples champions du monde en titre. Alors tout se jouera demain pour la médaille d'or à l'issue du programme de danse libre. Et ça tombe bien, c'est le point fort des Français. Un petit avantage psychologique qui fait plaisir à Guillaume Cizeron.
On savait pas trop à quoi s'attendre après le team event, mais on savait qu'on avait fait un meilleur score, mais on était quand même stressé d'attendre deux groupes pour savoir le résultat final, mais on est évidemment super contents. C'est une belle première victoire sur ces jeux. C'est une belle victoire avec ce programme-là qui nous a donné du fil à retordre, donc on est Vraiment super content.
Guillaume Cizeron est parmi les épreuves à suivre. Évidemment, aujourd'hui sur France Info, les qualifications en ski de boss. 7 tricolores sont en lice. Début aussi des épreuves de biathlon avec entre autres le champion olympique en titre, le français Quentin Fillon-Maillet. Christine Peña, la couverture nuageuse dans votre météo s'étire désormais sur tout le territoire.
Tout le monde, oui, effectivement, nous sommes tous sous les nuages. Nous aurons quelques petites éclaircies, peut-être sur les Pyrénées cet après-midi, sur les Alpes également. Peut-être sur Paris, mais alors ça sera vraiment furtif et de très courte durée. Nous avons ces perturbations qui s'enchaînent, mais vraiment très rapidement. Le vent va commencer à souffler très fort d'ailleurs dans la nuit prochaine, là, de mardi à mercredi. Mais le pic de ce vent, ça sera vraiment dans la nuit de mercredi à jeudi, certainement jeudi matin. Et là, nous aurons des vigilances qui pourraient évoluer. Pour l'instant, on va rester en jaune, me disait Météo France. Je viens
vous
de raccrocher.
Voilà.
Avec alors, on a un petit pic de douceur là d'ailleurs, surtout pour demain, mais des températures, on n'a pas de gelée ce matin. 1 degré à Strasbourg, 3 à Nancy. Il fait 10 du côté de Brest, de Paris, comme à Toulon. Le plus doux ce matin, c'est pour Biarritz. 13 degrés, on aura une petite vague de froid là qui devrait arriver pour le week-end prochain. Et d'ailleurs, dimanche, de la neige jusqu'en plaine pourrait bien tomber, notamment en Normandie, peut-être sur Paris. Mais très vite, les températures remonteront.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
Et justement, tout à l'heure, ce sera Surya Bonali, la patineuse, qui sera l'invitée d'Élodie Suigo. À suivre aussi d'ici 5h30 sur France Info du cinéma avec la suite d'un film culte, LOL, deuxième volet, c'est toujours avec Sophie Marceau. Un médicament miracle aussi à venir, vous entendrez qu'il faut se méfier des peptides qui ont de plus en plus de succès. Mais d'abord, OnlyFans et mime dans le viseur du Sénat.
France Info, 5h-6h. William DeCosta.
Alors, Kezako, allez-vous peut-être me demander, OnlyFans et Mime, ce sont des plateformes aux millions d'utilisateurs où l'on peut acheter souvent à des jeunes femmes des photos et des vidéos pornographiques. Alors, est-ce de la prostitution et certains sont-ils des proxénètes? Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi pour créer un délit d'exploitation sexuelle en ligne et ce texte vise des hommes, ce qu'on appelle les managers et qui tirent profit de cette nouvelle industrie. Bonjour Marc Bertrand.
Bonjour.
Pour mieux comprendre comment fonctionne ce proxénétisme 2.0, vous avez commencé tout simplement par vous inscrire sur la plateforme OnlyFans.
Ça se présente comme un réseau social. Je renseigne ma carte bancaire, je prends un selfie pour certifier que je suis majeur et je tombe sur le profil d'Eva, 19 ans. Une photo dans sa salle de bain, serviette nouée sur la poitrine. À peine ai-je cliqué pour m'abonner, je reçois un message.
Hey, tu t'appelles comment ?
Je m'appelle... Marc.
Moi, j'ai 19 ans. Une petite jeune rien que pour toi. Que demander de mieux ? Aha.
Elle m'envoie une vidéo.
Je devrais peut-être pas t'envoyer ça. Faut que ça reste notre petit secret.
Il faut payer 16$ pour la débloquer. Sauf que ce n'est pas vraiment Eva qui m'a répondu. Mais un chatter.
Les chatters, en fait, c'est des personnes qui travaillent sur le compte de la modèle et qui parlent à sa place.
Et lui, c'est Mayali, 19 ans, manager OnlyFans. Il m'a donné rendez-vous au Prince de Galles, un palace parisien, et sort d'une BMW de location qui pétarade sur l'avenue Georges V.
Non, mais voilà, c'est plaisir de temps en temps.
Queue de cheval soignée, petite lunette fumée. Le garçon veut en imposer, mais il a encore l'air d'un adolescent. Il a lâché son BTS commerce pour se lancer il y a 2 ans.
Ma première modèle, j'ai prospecté, entre guillemets, sur Instagram. Et ma première modèle, je lui ai simplement envoyé un message en lui expliquant comment elle pouvait générer plus d'argent, qu'est-ce que je pouvais lui apporter. Ça l'a intéressée. Je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'elle ne faisait pas énormément d'argent, qu'elle passait beaucoup de temps à parler aux fans. Mentalement, ça commençait à être un petit peu pesant.
Mayali affirme qu'il gère aujourd'hui 4 créatrices OnlyFans.
Le salaire moyen d'une créatrice OnlyFans, c'est 200$. Une fille qui n'est pas agencée, c'est 200$. Et aujourd'hui, on a des modèles les plus connus qui font plusieurs millions de dollars par mois.
Les tiennes, elles font combien ?
Alors, elles sont toutes à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Sa méthode, c'est la division du travail. Il ouvre son ordinateur. Tout se fait en ligne. Les créatrices envoient les vidéos sur un Google Drive pour fournir une dizaine de chatters qui s'occupent de discuter avec les fans, les clients, pour un salaire très modiques derrière leur ordinateur.
La plupart du temps, ça va être des personnes aux Philippines pour le marché américain. Pour la France, ça peut être à Madagascar, au Bénin ou des choses comme ça.
Ces petites mains suivent des scripts prêts à l'emploi comme soirée Netflix ou sous la douche.
Donc ça va être une photo en sous-vêtement. J'ai passé une longue journée, je vais à la douche. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Ce qui va entraîner une conversation avec le fan. Il y a des vidéos, par exemple, la modèle va se masturber, va dire le nom du fan, et le mec va être prêt à payer 500 $ par exemple.
Sur les réseaux, le jeune homme affiche sa réussite. Ses voyages à Dubaï, montre brillante au poignet. Il dit qu'il fait des mois à 30 000 $ de chiffre d'affaires, répartis à égalité entre lui et les modèles. Est-ce qu'on peut vraiment le croire ? Il n'a pas voulu me montrer ses comptes bancaires. Et le garçon vit toujours chez sa mère. Je lui demande s'il se considère comme un proxénète.
Non. Quand on bosse avec une modèle, il n'y a aucune contrainte. On ne se voit pas. Si elle veut arrêter, elle peut arrêter à n'importe quel moment. Les deux parties du contrat sont égales.
Comme lui, des centaines de jeunes hommes chroniquent sur les réseaux leur quête pour, comme ils disent, chiffrer sur OnlyFans en tentant de recruter des filles souvent très jeunes.
Et Marc, justement, une de ces créatrices de la plateforme Mime vous a raconté son expérience avec un manager qui lui promettait de faire beaucoup d'argent et elle les considère aujourd'hui comme des prédateurs.
Elle s'appelle Christine, alias Crie Plus Fort sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 30 ans est à Bali en ce moment, en train de faire un tour du monde.
Je vis en Airbnb. Du coup, là, j'ai pris un mois à Bali. Avant, j'étais 3 mois à Bangkok.
Christine raconte qu'elle a commencé sur Mime il y a 3 ans. À l'époque, elle ne connaît rien aux plateformes privées. Elle est au chômage, elle va très mal et raconte sa dépression à ses abonnés sur les réseaux quand un manager la contacte sur Instagram.
C'était le moment parfait, en fait. Il a vu une vidéo où je pleurais. Il a dit, voilà, je veux te faire gagner beaucoup d'argent. Et c'était pile au moment où j'avais besoin, en fait.
Un gamin de 20 ans, comme elle dit, qui se montre d'abord mielleux.
T'es très belle, très intelligente. Toi et moi, on va faire tellement d'argent.
Et c'est vrai, Christine génère 35 000 euros dès le deuxième mois avec ses contenus porno, mais son manager en veut toujours plus.
En gros, je me réveille à 11h et je crée du contenu jusqu'à 5h du matin sans m'arrêter tous les jours, en fait. Des vidéos personnalisées sur commande dans l'heure qui suit parce que les chatteurs, ils voulaient avoir leur commission. J'étais dans un état vraiment archi lamentable. Je prenais de la drogue tous les jours pour tenir. J'étais tout le temps sous kétamine. Et du coup, je lui ai dit, en fait, je vais arrêter. Il ne voulait juste pas me laisser partir, en fait.
Le manager tente alors de récupérer l'argent. Elle arrive à bloquer le virement grâce à la plateforme. Mais depuis, le jeune homme la harcèle.
Il a changé tous les mots de passe. Il a fait fuiter mes contenus. Il a publié plein de trucs sans mon consentement sur les réseaux. Enfin, c'était vraiment un truc hyper grave de moi en string, en disant, envoie ça à ton pote pour casser le ramadan, des trucs horribles. Il a payé un mec sur WhatsApp pour m'envoyer une vidéo en bas chez moi parce qu'il avait mon adresse. À minuit, et me dire « sale pute, descend et rend l'argent ».
Aujourd'hui, Christine est toujours sur les plateformes privées. C'est son unique source de revenus. Mais seule, elle continue pourtant de recevoir des dizaines de propositions de managers.
Le gros problème, c'est que les jeunes filles qui veulent se lancer vont très vite tomber dans les bras d'un manager parce qu'ils sont comme des prédateurs.
La jeune femme dit qu'à cause des contenus qui ont fuité sur Internet, elle croise presque tous les jours des hommes qui la reconnaissent dans la rue.
Témoignage recueilli par Marc Bertrand pour France Info. Ils peuvent régénérer votre peau, vous donner une mémoire d'éléphant ou une bonne libido. Enfin, c'est ce que dit la publicité, car la réalité est sans doute bien plus sombre. L'Inserm met en garde contre la mode des peptides, des acides aminés qui sont vendus sous forme de crème ou alors de compléments alimentaires un peu partout dans le commerce. Et selon l'Institut de Recherche Médicale, Solène Lehen, il y a peu de vrai et surtout beaucoup de faux dans toutes ces allégations.
Sur les réseaux sociaux, les influenceurs n'ont plus que le mot peptide à la bouche.
Les peptides semblent devenir les derniers produits à la mode dans le monde de la musculation et du fitness. Ils permettent de brûler de la graisse, prendre du muscle, avoir une belle peau et plus d'énergie.
La plupart du temps, ce sont des actifs anti-âge très précieux.
Meilleur booster sur le marché en 2025 pour la peau, mais aussi pour les cheveux et les ongles.
Pour un peu, ils feraient des miracles. Le principe paraît simple. Les peptides, le corps en produit beaucoup et naturellement. En effet, ces acides aminés, quand ils s'assemblent, créent des protéines. Protéines comme le collagène. Pour autant, si on en ingère, pas d'effet miracle sur la peau ni pour combler les rides, explique le professeur David Bocara, chirurgien plasticien à l'hôpital Saint-Louis à Paris et chercheur à l'Inserm.
Tous ces produits-là ne sont pas forcément intégrés dans le corps et c'est un peu comme les vitamines. Alors,
Ça fait du bien psychologiquement parfois de prendre une petite vitamine C le matin, mais en réalité, plus de 90% est éliminé par le corps parce que à partir du moment où on n'est pas carencé de manière constitutionnelle ou acquise sur certains peptides, c'est pas parce qu'on va en ingérer que ça va régler tous les problèmes.
Autre allégation, les peptides aideraient à bronzer.
On est très sceptique et j'en parlais avec mes collègues dermatologues qui, eux, au contraire, m'alertaient parce qu'ils pensent qu'il y a probablement même un sur-risque de cancer de la peau, notamment de mélanome. Donc parfois, les peptides, ils peuvent être salvateurs, ils peuvent être inoffensifs, mais ils peuvent être aussi dangereux, typiquement aussi pour ceux qui veulent prendre ça pour développer leur masse musculaire. Alors on sait que la prise de protéines, ça va aider à la prise de masse, mais il y a certains peptides qui ont un peu des effets équivalents à ceux de l'hormone de croissance qui peuvent engendrer le développement de certaines tumeurs qui peuvent être dangereux pour le corps. Donc il faut faire très attention à ça.
En résumé, les crèmes, les compléments alimentaires ou les injections qui promettent, entre autres, la jeunesse éternelle, une meilleure mémoire, la guérison des blessures ou encore une libido détonnante.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'étude sérieuse qui va dans ce sens-là. Même si un peptide peut être bénéfique, il peut aussi avoir des effets délétères. Donc, il y a toujours une balance à peser. Donc, si vous dormez mieux pendant 6 mois, mais que vous avez un cancer 2 ans après, je pense que vous êtes largement perdant.
Face à l'absence de preuves scientifiques solides validant les bienfaits des peptides vendus dans le commerce, le chercheur conseille plutôt un mode de vie sain, avec une bonne alimentation, du sommeil et de l'exercice physique.
Merci Solène Lehen, spécialiste santé de la rédaction de France Info. Restez avec nous, on va rire dans une minute avec le retour de LOL. LOL 2 avec Sophie Marceau qui arrive au cinéma. France Info, la vue pour vous.
France Info. 5h-6h.
Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
À 5h20, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité avec vous et à la une, Emmanuel Macron qui se rend ce matin à Dunkerque sur l'un des sites d'ArcelorMittal.
Le premier producteur d'acier français doit annoncer le grand chantier de décarbonation d'une de ses usines en lançant son premier four électrique. La CFDT boycotte le déplacement du chef de l'État à cause d'un contexte social tendu et des suppressions de postes chez ArcelorMittal. Après le suicide d'Evaël, 11 ans, en 2019, son enseignante devant la cour d'appel pour harcèlement, 18 mois de prison avec sursis requis et une interdiction définitive d'enseigner. La professeure de français relaxée en première instance. Nouvelle frappe américaine hier sur un bateau de trafiquants de drogue présumé dans le Pacifique. 2 morts. Il s'agit de la 3e opération de ce type connue depuis le début de l'année. Le patinage artistique aux Jeux de Milan Cortina et cette image de la soirée d'hier, une touche de glamour sur la glace. Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont dominé l'épreuve de danseur rythmiques et peuvent désormais viser la médaille d'or en danse sur glace. Réponse demain.
France Info. C'est un film qui a marqué toute une génération d'adolescents et comme la boum, eh bien Sophie Marceau est en haut de l'affiche. La suite de LOL sort demain au cinéma. LOL 2.0 signé Lisa Azuelos, 17 ans après le premier volet qui avait attiré Matteo Maestrachi. Plus de 3,5 millions de spectateurs en salle.
C'est trop bête de passer à côté de l'amour.
L'amour ? Carrément.
On pourrait croire qu'après un tel succès en salle en 2009, mais aussi le côté phénomène pour toute une génération, qu'une suite du premier LOL tombait sous le sens, surtout après une version américaine en 2012 avec Demi Moore et Miley Cyrus, que tout le monde a globalement oublié. Pourtant, la réalisatrice Lisa Azuelos ne voulait au départ pas faire de suite et elle aura donc mis près de 20 ans à se laisser convaincre.
J'avais pas du tout envie de remettre mon titre en jeu. C'est très agréable d'avoir fait un film qui est dit culte. J'avais juste peur que ce soit moins bien. Et surtout, j'avais réussi à rendre une génération assez fière d'elle-même et assez heureuse avec le premier LOL. Et j'avais pas envie qu'ils soient pas fiers d'eux et qu'ils aiment pas ce film. J'avais pas du tout envie de me confronter à ça. Et puis ça s'est fait. J'ai fait confiance à tous les gens qui m'ont entourée pour m'aider à faire ce film. Et ça s'est super bien passé finalement.
LOL 2.0 répète, en la modernisant quelque peu, la formule qui avait fait le succès du premier film. Une relation mère-fille à la fois tendre et tumultueuse, avec le personnage d'Anne, joué par Sophie Marceau, qui voit revenir Louise, 23 ans, chez elle après une rupture amoureuse et apprend, dans le même temps, que son fils Théo va bientôt être papa, ce qui fera donc d'elle une grand-mère. Une mère de famille forte et indépendante, qui passe par beaucoup de sentiments contradictoires et à qui Sophie Marceau donne tout dans un abattage assez impressionnant. Lisa Azuelos.
Sans Sophie Marceau, je n'aurais pas fait LOL 2. Quand elle a lu le scénario, elle a eu un coup de cœur pour le scénario. C'est vraiment elle qui m'a donné la force d'aller jusqu'au bout. Bon, c'est mon 4e film avec elle. LOL, le premier, c'était mon premier film avec elle, donc j'étais un peu plus timide. Là, je sais ce qu'on peut faire ensemble. Et j'ai eu envie d'exploiter cette comédienne extraordinaire. cette femme préférée des Français aussi. Il fallait mélanger un peu les deux. La femme aussi, bah, qui a pris un peu d'âge, qui est à l'aise avec ça. En fait, je crois que c'est surtout les autres qui sont moins à l'aise avec le fait que Sophie Marceau va incarner une grand-mère dans ce film.
Thaïs Alessandrin, fille de la réalisatrice, Vincent Elbaz, Victor Belmondo, Françoise Fabian, parmi d'autres, complètent le casting d'un film agréable et attachant à qui on souhaite le même parcours en salle que le premier LOL.
Pète grand-mère, ça vous dérange pas?
C'est sexy.
LOL 2.0, demain en salle. Merci beaucoup Matteo Maestracci, il est 5h24 et c'est l'heure du monde d'Elodie. Et en plein JO d'hiver, une championne de légende du patinage artistique.
Bonjour Surya Bonnelly.
Bonjour.
Vous êtes cette patineuse artistique emblématique qui est associée à la création du salto ou saut périlleux arrière, jambes tendues, pieds décollés. Cette figure déterminée comme dangereuse et qui a fait couler beaucoup d'encre, autant qu'elle, par moments, vous a coûté pas mal de points. Vous avez été 9 fois championne de France en solo, une fois en couple en 89 avec Benoît Vanderberg. Vous avez remporté 16 médailles. Mais derrière ce palmarès, en fait, Surya Bonnelly, se cache l'histoire d'une petite fille qui a vécu une vie un peu particulière. C'est d'ailleurs raconté dans l'ouvrage qui est publié là, Surya Bonnelly, Le feu sur la glace, aux éditions Marabule. Ce texte ouvre cette BD. Surya, petite fille noire adoptée à la naissance, élevée loin des chemins tracés, devenue jeune femme libre et rebelle, qui a révolutionné sa discipline. Il représente quoi cet ouvrage ?
Retrace beaucoup de phases de ma vie, depuis mes premiers pas sur la glace jusqu'à la fin de ma carrière, avec des hauts et des bas, des succès, des victoires, des déceptions, et puis toute l'histoire de ma vie avec mon adoption. Mes parents qui m'ont aidé beaucoup, changer de pays. C'est une belle vie, bien remplie, on peut dire, une belle carrière.
Vous avez effectivement été adoptée. Alors, vos parents s'appellent Suzanne et Georges. Ils ont décidé pour vous, vous alliez vous appeler Surya, ce qui signifie soleil en hindi. C'est juste magnifique, d'ailleurs, de démarrer la vie finalement comme ça. Vous gardez quoi de votre enfance ?
Une enfance bien remplie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie de vivre. Toujours dire oui à la vie, toujours être positive, toujours... être à la découverte de quelque chose de nouveau, toujours vouloir apprendre, que ce soit des pays différents, des langues différentes, la nature, tout. C'était toujours important dans notre famille de toujours découvrir et d'apprendre.
Vous avez très tôt effectivement aimé le sport. Pas forcément le patinage artistique d'ailleurs. Vous êtes passé par plein de sports différents, mais à chaque fois on vous repérait dans des sports. Vous étiez faite, semble-t-il, pour faire du sport. Vous l'avez ressenti ça très jeune ?
Oui, je pense que j'avais un peu plus de chance car ma mère était prof de sport, donc elle avait le droit d'aller dans plusieurs centres sportifs et j'avais le droit de m'entraîner et je tâtais et je me disais oh, j'aime bien ça, je continue et alors je revenais un peu plus et comme c'était gratuit parce que ma mère était prof, alors j'avais le droit de m'entraîner un peu plus longtemps que les autres, mais c'était sans ambition d'être championne un jour ou championne olympique ou championne du monde ou quelque chose, c'était juste l'amour du sport, de faire le meilleur et avoir des challenges personnels.
Il y a eu la piscine au départ effectivement avec le plongeon, vous étiez fan de plongeon, ensuite il y a eu la gymnastique et le patinage artistique. À quel moment et comment il rentre dans votre vie, ce patinage artistique ? Est-ce que, dès le départ, c'est devenu une évidence pour vous ?
Non, pas du tout. J'aimais beaucoup de sport. Malheureusement, je n'avais pas assez de temps. Le patinage, ça faisait partie de ma vie. Ça faisait partie de ma semaine où je faisais du sport. Mais au début, c'était tout simple. Surtout quand, venant de Nice, dans les années 70, on le faisait vraiment seulement 6 mois de l'année. Parce que c'était une patinoire à l'extérieur. L'été, on était obligé de faire autre chose.
Comment vous vous sentiez dans ce milieu très normé ? On avait l'impression à un moment donné qu'on ne pouvait pas dépoussiérer ce milieu du patinage artistique.
Ça s'est fait petit à petit. Au début, je voulais juste patiner, glisser, m'amuser, m'éclater. Chaque entraînement était pour moi un challenge et je me donnais toujours à 100%. Après, bien sûr, le patinage est un milieu différent, surtout dans les années 80. Très, très fermé, circuit où il y avait beaucoup de patineuses normalement blanches. J'ai été la pionnière, j'ai été une des premières française et de couleur à aller aux Jeux Olympiques. Après, il y a eu 2 autres patineuses qui sont montées après moi. Donc, on voit que petit à petit, on commence. Avant moi, il y avait Debbie Thomas, la grande championne américaine, qui est allée aussi aux Jeux Olympiques et avait eu une médaille. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de patineurs de couleur au niveau mondial. J'espère qu'après avoir vu toutes les championnes à la télé, peut-être que on en aura plus dans les années suivantes.
Votre nom est indissociable, effectivement, de l'histoire du patinage. Quel est votre plus beau souvenir de médaille, alors ?
je pourrais dire les championnats du monde, même si j'ai été deuxième, et que deuxième, c'est une place... ça pourrait être une déception, mais à la fois, je suis quand même vraiment contente d'avoir été trois fois vice-championne du monde. Après, les Jeux Olympiques d'Albertville, bien sûr, car c'était chez nous, dans notre coin, en France, en Savoie. Les Jeux Olympiques de Nagano, bien sûr, c'était mes derniers Jeux Olympiques. Donc, évidemment, c'est aussi quelque chose qui me restera toujours à vie, surtout après avoir fait ce salto, arrivé sur un pied et qui a gardé, je pense, à vie cette marque déposée de Surya et à la fois pour mes derniers Jeux Olympiques. Les gens se rappellent toujours de cette image des Jeux Olympiques à Nagano, 98. Donc, c'est chouette. Même 25 ans après, on en parle encore. Donc, c'est incroyable.
Merci beaucoup, Surya Bonaly, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info. Le Feu sur la glace, c'est sorti aux éditions Marabule. Évidemment, de quoi découvrir votre parcours qui inspire beaucoup de petites filles aujourd'hui. Merci beaucoup.
Mais c'est surtout un livre pour petits ou grands. Donc, ça, c'est bien, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Et merci à vous, Élodie Suigaud. On retrouve le monde d'Élodie sur franceinfo.fr. La météo.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux, rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Alors j'ouvre votre petit programme, Christina. Encore de la pluie et du vent.
Bah oui, et de la neige en montagne. Tiens, si on faisait un petit point neige.
Allons-y.
Une fois n'est pas coutume. Vous savez que la station la plus enneigée est dans les Pyrénées cette année. Pio en Galie avec 3,50 m de neige au sommet. C'est aussi la station la plus haute des Pyrénées. Donc les Pyrénées restent couvertes avec des précipitations toute la journée pour les Pyrénées orientales. Une légère accalmie vers l'Atlantique. Les Alpes du Sud, le vent se renforce. La limite pluie-neige remonte à 2500 mètres. Là aussi, une accalmie est prévue pour l'après-midi. La partie nord des Alpes reste nuageuse hein, avec des chutes de neige. Mais dès 800 mètres d'altitude ce matin, ça remonte à 1600 cet après-midi. L'Isère aussi bénéficiera de courtes éclaircies, mais des éclaircies quand même. Sur le massif central, pas de neige. Alors là, c'est de la pluie et des pluies soutenues d'ailleurs. Toute la journée, les nuages restent agglutinés. Sur le Jura aussi, il pleut. Vous aurez une accalmie l'après-midi. Et les Vosges, un peu de neige ce matin, dès 1100 mètres d'altitude. Mais rapidement, ça sera la pluie qui reprendra le relais.
Merci beaucoup Christine Peña. Au programme de France Info pour arriver jusqu'à 6h. Un Français sur 5 seulement qui fait confiance aux politiques. Selon une étude qui vient de sortir, parole de citoyens déçus et méfiants à venir. Le procès d'un ado soupçonné d'être un tueur à gages va s'ouvrir aujourd'hui. La compagne de la victime témoigne à notre micro. Et puis le choix de France Info. Ce sera à Gérardmer, où il neige dans les Vosges et où les prix de l'immobilier s'envolent pour les locaux. Merci d'écouter France Info, c'est l'heure d'un nouveau journal à 5h30. Bienvenue.
France Info.
Sera-t-elle à nouveau relaxée comme l'an dernier? En tout cas, 18 mois de prison avec sursis viennent d'être requis par l'accusation contre la professeure de français de la petite Evaël, cette collégienne d'11 ans qui s'est suicidée en 2019 dans le Val d'Oise. Réquisition lors d'une journée d'audience forte en émotion hier, Pierre de Cossette.
Quand elle s'avance à la barre, la mère d'Evaël a la voix qui s'étrangle. À l'école, elle aurait dû être en sécurité, elle aurait dû pouvoir faire confiance aux adultes. À la place, elle a rencontré l'humiliation, la domination, l'isolement.
C'est la première fois où je me suis dit, là, il faut vraiment que tu parles personnellement de ce que tu as ressenti, les quelques souvenirs que j'avais d'Evaël. C'est pas évident.
Toute la journée d'hier, Marie Dupuis a entendu cette professeure de 63 ans, désormais à la retraite, bousculée par les magistrats, mais inflexible. Mon intention n'était pas de la mettre en difficulté, mais de l'aider, au contraire, assure la prof, sans le moindre signe d'empathie pour les parents d'Evaël, incrédules.
Il y a à peu près une seule défense qui est de dire c'est de la mauvaise interprétation de la part des élèves, mais à un moment donné ça peut pas tenir. Il y avait 15 témoignages sur 19 élèves qui vont dans le même sens. À un moment donné on peut pas te dire à chaque fois non, ils ont mal interprété.
Une défense inaudible pour la représentante de l'accusation, pour qui l'enseignante a jeté en pâture Evaël à sa classe. Une collégienne brisée, dit l'avocate générale, par l'attitude cassante voire humiliante de sa prof de français jusqu'à cette indicible tragédie. La magistrate réclame 18 mois de prison avec sursis en espérant une prise de conscience de la professeure.
Et dans cette affaire, trois élèves seront jugés plus tard. Merci Pierre de Cossette. Les parents d'Inas, celle que l'on avait surnommée la martyre de l'Adis, seront jugés en novembre prochain. Leur fille de 4 ans avait été retrouvée morte au bord de cette autoroute en 1987. Il avait fallu plus de 30 ans pour l'identifier. Les deux parents vont comparaître devant la cour d'assises de Blois. La mère pour torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort. Le père pour complicité. La vaccination contre la dermatose nodulaire bovine sera renouvelée cette année, annonce du ministère de l'Agriculture. Elle sera à nouveau obligatoire. territoire est payé par l'État. Dans les régions durement touchées ces derniers mois avec des abattages de troupeaux entiers, les Deux-Savoie, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore l'Occitanie. La Commission européenne veut mettre fin à la destruction des vêtements et des chaussures invendus. Des mesures viennent d'être adoptées. Elle prévoit d'interdire cette destruction à partir de juillet pour les grandes entreprises. Ce sera 2030 pour les moyennes. Chaque année sur notre continent, ce gaspillage génère autant de CO2 que la Suède. Aux Jeux Olympiques, un Français est passé très près d'un exploit en saut à ski dans le concours du petit tremplin. C'est Valentin Foubert. Il était deuxième après la première manche hier, mais le sauteur de Courchevel n'a pas réussi à confirmer sur sa seconde tentative. Il finit donc au pied du podium, mais c'est tout de même la meilleure performance d'un Français aux Jeux dans les épreuves masculines de saut à ski. Mais la déception régnait tout de même.
Il y a beaucoup plus de déception que de fierté là après. J'avais beaucoup de stress quand j'ai appris que j'étais deuxième. Après, j'y avais un peu prévu avec mon coach, on avait un peu prévu aussi ces choses-là qui pourraient arriver. Après, en ultramplan, moi j'ai réussi à me remettre dedans. J'ai fait un saut qui est assez correct, mais c'est sûr que quand tout le monde a mis des super sauts, voilà, je sais même plus à quoi je pensais, mais à juste voler quoi, juste prendre mon temps en l'air et m'amuser.
Valentin Foubert à suivre aujourd'hui sur France Info. Entre autres, 7 tricolores dans une discipline toujours impressionnante, le ski de boss. C'est l'heure des qualifications. On retrouvera notamment Perrine Lafont ou Benjamin Cavé qui lui avait terminé 4e lors des derniers Jeux. Début des qualifications à 11h15, c'est pour les hommes. À 14h15, ce sera pour les femmes. Merci d'écouter France Info. Il est 5h35.
France Info. 5h-6h. William DeCosta.
Nous sommes à Cuba à présent. Au plus, une goutte de carburant n'est arrivée depuis un mois. C'est la conséquence de la chute de Nicolas Maduro au Venezuela, un soutien historique de la Havane. C'est la conséquence aussi de la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane à ceux qui voudraient vendre du pétrole à Cuba. Et désormais, 10 millions de personnes sur l'île sont confrontées à du rationnement, à des restrictions. Alors tout cela peut-il faire tomber le régime castriste? Voilà l'analyse de Thomas Posado. Il est maître de conférence à Rouen, spécialiste de Cuba.
On s'inscrit dans un cadre d'un blocus qui existe déjà depuis les années 60 en France. C'est sans doute l'un des blocus les plus longs de l'histoire où il y a déjà des mesures coercitives unilatérales contre Cuba qui empêchent le commerce de Cuba. Là, ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis empêchent toute livraison de pétrole à l'île et... commençant par le cas du Venezuela, donc en renversant Nicolas Maduro et en faisant pression sur la nouvelle administration de Delcy Rodriguez pour qu'elle cesse les exportations de pétrole à Cuba, et désormais en faisant pression y compris contre le Mexique, qui a toujours eu un discours avec Cuba beaucoup plus teinté de souveraineté nationale et beaucoup plus solidaire avec Cuba, mais qui visiblement a cédé dans une situation extrêmement complexe où il y a une renégociation du traité de libre-échange avec les États-Unis. Cuba se retrouve isolé, obligé de vivre dans cette espèce d'autarcie, sachant que ces pays, elle dépendait de ces pays pour son approvisionnement énergétique et qu'il y a des coupures de courant extrêmement régulières à Cuba, à tel point qu'on parle davantage des heures de présence de l'électricité plutôt que des heures d'absence. Tellement on a une situation difficile qui risque d'advenir encore plus difficile avec cette coupure de l'approvisionnement énergétique depuis l'étranger.
Alors, le Mexique devrait donc renoncer à fournir du pétrole à Cuba. En tout cas, c'est ce qu'annonce Donald Trump. On va voir si c'est vraiment le cas. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient malgré tout venir en aide à Cuba en lui livrant du pétrole?
Pour l'instant, ils ne se sont pas manifestés. On sait que la Russie exporter du pétrole, mais pour de très très faibles quantités. Est-ce que ces quantités vont augmenter? On ne le sait pas. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment de pays susceptibles de remplacer le Venezuela et le Mexique. L'Algérie, par le passé, a eu quelques livraisons, mais dans des volumes extrêmement réduits qui ne permettraient pas de changer la donne à Cuba. D'un point de vue d'approvisionnement en électricité, il y a eu ces dernières années la construction de centrales photovoltaïques par la Chine, qui permettrait à Cuba de retrouver une certaine consommation électrique. Mais c'est des processus qui prennent des années, et où là, l'urgence pour Cuba, c'est une urgence pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, qui n'est pas du tout dans le timing du redémarrage d'une industrie électrique, comme la Chine a essayé de le faire par cette industrie solaire qui semblait voir le jour ces derniers mois.
À votre avis, Thomas Posado, quel est l'objectif final final des Américains? Est-ce qu'ils se disent, tiens, on va vraiment, donc, comme on disait, asphyxier économiquement Cuba pour provoquer une révolte du peuple, comme ça se passe en Iran actuellement?
L'objectif rêvé de Donald Trump, c'est cela, hein. Enfin, et en particulier de son secrétaire d'État Marco Rubio, qui est un fils d'immigré cubain et qui a construit sa carrière politique sur le changement de régime à Cuba, implanté en Floride, où il y a ces communautés d'opposants cubains depuis maintenant des décennies. C'est leur pari, c'est leur espoir, c'est très loin d'être une certitude qu'ils vont arriver à leur fin. Cuba est habitué à cette résilience économique. On est là dans des difficultés économiques qui sont encore pires que celles des années 90, donc après la chute de l'URSS. Mais Cuba a cette expérience, malheureusement, dans cette résilience face aux crises économiques, cette capacité à pouvoir vivre en autarcie de cette manière-là, à un État qui est extrêmement organisé. Autant au Venezuela, en décapitant la tête, on voit que les États-Unis ont réussi à imposer un rapport de force très favorable avec Delcy Rodriguez. Il me semble que rien de tel n'est probable à Cuba.
Il n'y a pas de prémisse d'une révolte du peuple cubain, là.
Il y en a eu ces dernières années, il y en a eu en juillet 2021, une grande révolte spontanée, le 11 juillet 2021, qui d'ailleurs a été réprimée avec plusieurs années de prison pour les personnes qui y ont participé. C'est difficile d'imaginer qu'ils vont reparticiper de nouveau volontairement à cela. Et le problème, c'est que les révoltes, hein, enfin, c'est comme de partout dans le monde, hein, on sait rarement à quel moment elles arrivent. Et souvent, c'est pas parce que la misère devient plus importante que d'un coup, il y a une révolte. Au contraire, il y a peut-être des stratégies de survie individuelle qui peuvent rendre les Cubains plus dépendants de l'État, des maigres aides que peut distribuer l'État, et où c'est souvent des stratégies perdantes pour l'objectif de changement de régime et très cruel pour la population.
Ouais. Le spécialiste de Cuba, Thomas Posado, au micro France Info de Céline Baydarcourt. Emmanuel Macron est à Dunkerque aujourd'hui, ce matin, sur l'un des sites d'ArcelorMittal, le premier producteur d'acier français qui doit annoncer aujourd'hui la création de son tout premier four électrique, un four électrique destiné à verdir la production d'acier, annonce en grande pompe, qui sera boycotté par la CFDT. Le syndicat dénonce l'absence de réaction du chef de l'État lors des suppressions de postes sur ce site d'ArcelorMittal. Le représentant de la CFDT, c'est Jean-Marc Vécrin, coordinateur d'ArcelorMittal CFDT en France.
Il y avait un plan initial où il devait y avoir deux fours électriques à Dunkerque. Ça a été retardé pendant un certain temps. Et là, maintenant, ils viennent donc, on va annoncer qu'on en fait un. Alors, c'est un bon début. C'est une bonne nouvelle. Mais bon, dans le même temps, on n'oublie pas qu'aujourd'hui, il y a des plans sociaux chez ArcelorMittal et il y a des gens qui sont en train de perdre leur emploi. Donc on aurait bien voulu que M. Macron vienne un petit peu voir sur les sites de Florange ou de Dunkerque quand Mittal a annoncé ses suppressions de postes.
Pourquoi ça vous surprend d'abord que le chef de l'État vienne en personne à Dunkerque?
C'est plus de la com qu'autre chose. Enfin, c'est bien, il vient faire pour nous, il vient faire sa com. Moi, vous savez, moi je viens de Florange, hein. J'ai connu 2012 la fermeture des hauts fourneaux où il y avait un certain M. Hollande qui était venu, qui est monté sur la camionnette CFDT en expliquant qu'on va sauver la sidérurgie, on va sauver vos hauts fourneaux, vous inquiétez pas, on va tout faire. Et puis au final, voilà. Les hauts fourneaux sont fermés. Donc maintenant, bis repetita, Hollande, Macron, voilà. Nous, on, bien évidemment, on est pour sauver la sidérurgie, pour sauver l'acier en France et en Europe. C'est primordial, il faut le faire. Maintenant que ce soit M. Macron qui vient l'annoncer, pour la CFDT, c'était un coup de com'.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander au chef de l'État? Puisqu'il doit échanger avec des salariés, vous allez lui dire quoi? Que la construction d'un four électrique, c'est pas suffisant pour garantir, on va dire, la pérennité de la production en France?
Tout à fait. Un four électrique, c'est pas assez. Le plan initial, c'est deux fours électriques à Dunkerque et un à Fos-sur-Mer, sur le site de Fos-sur-Mer. Aujourd'hui, on est en retard par rapport à ce qui a été annoncé. Donc, nous, on aimerait bien qu'il y ait un calendrier qui soit annoncé et qu'on nous dise, voilà, aujourd'hui, c'est un four électrique à Dunkerque, le deuxième à telle et telle date, et puis ensuite, un à Fos. Et aussi, surtout, ce qu'on attend, c'est vu toutes les aides qui ont été octroyées à M. Mittal depuis des années, qu'il y ait en contrepartie aussi Alors il y a ces investissements qui sont largement subventionnés aussi par l'État et par l'Europe, mais qu'en contrepartie, on arrête les délocalisations en Inde et les plans sociaux. Parce que ça, par contre, là, il y a des humains derrière et ça, c'est juste pas possible.
Et le coordinateur CFDT ArcelorMittal en France, Jean-Marc Vécrin, qui répondait aux questions France Info de Julien Langlais. Dans un instant, nous prendrons la direction de Marseille, alors qu'un procès très attendu s'ouvre, celui d'un tueur à gages de seulement 14 ans. Et d'abord, Emmanuel Macron, nous le disions, état Dunkerque. Emmanuel Macron critiqué et impopulaire, tout comme le reste de la classe politique. Seul un Français sur cinq fait confiance à cette classe politique. C'est le résultat d'une étude du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, publié aujourd'hui. Et c'est bien moins que nos voisins allemands, italiens ou britanniques. Les seuls politiques qui échappent à cette défiance, ce sont les maires. 60% des Français leur font confiance. Et vous l'avez constaté dans la Sarthe, Caroline Félix.
Dans ce supermarché, les politiques ne font pas rêver grand monde.
Je leur fais pas du tout confiance, ça c'est sûr.
Un manque de confiance nourri par un argument qui revient souvent. Les députés, notamment, sont trop avantagés. François rejoint sa voiture, fromage frais et lardons dans les bras.
On est dans une orgie financière. Ils comptent pas leurs dépenses. D'accord. C'est les aides qu'ils ont. Alors qu'on a des Français qui galèrent, pour moi, ils s'en foutent.
Cette défiance se transforme en indifférence pour Annick, une retraitée qui suit l'actualité de l'Assemblée nationale de très loin.
Je vois pas pourquoi je perdrais du temps à les écouter. Puis notre avis compte tellement peu.
Vous connaissez le nom de votre député ?
Non, pas du tout.
En revanche, elle connaît le nom de son maire.
Ben oui, quand même. En petit village, on est obligé de s'y intéresser. C'est quand même chez nous. Donc si on a quelque chose à dire, c'est là qu'il faut le dire.
La maire de sa commune, voilà la seule politique qui trouve grâce aux yeux de Lise, une agricultrice qui pousse son caddie.
J'ai encore fait une réunion d'ailleurs vendredi avec elle. Elle se met au niveau des résidents de son village. Il y a de l'humain et en elle, quoi.
L'accessibilité comme secret de la popularité, c'est l'analyse du premier édile de Bouessé. Un village à 5 minutes en voiture du supermarché. Pierre Paterne reçoit au milieu de ses dossiers. Les maires sont avant tout là pour écouter, d'après lui.
On ne va pas régler tous les problèmes. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, avec l'Internet, les médias et tout, je trouve qu'on doit avoir ce rôle d'écoute. Et, une fois, la personne arrive en mairie complètement remontée comme une pile pour un problème de branche avec son voisin. J'ai dit, on va déjà prendre un café tous les deux. Déjà, la situation est déjà amorcée. Et puis, on a échangé.
Et voilà pourquoi il suggère de revenir au cumul des mandats, limité depuis 2014.
Toute représentation nationale devrait être obligatoirement maire. Et j'appelle ça le coup de pied dans les fesses de l'habitant, moi. Les habitants, ils nous remuent un petit peu. C'est pour être un peu rapporté au niveau national plutôt que d'aller vociférer dans les hémicycles. Je trouve que ça serait bien et que ça serait un peu plus positif.
Mais il ne met pas tout le monde dans le même sac.
Mais moi, nos sénateurs, c'est des gens qui sont hyper abordables. Et moi, je dis chapeau, mais la population ne le voit pas.
Et il ajoute sur ce point, il y a aussi de la pédagogie à faire auprès de la population.
France Info, reportage signé Caroline Félix.
France Info, 5h-6h.
6h moins le quart, c'est l'heure de l'info en une minute avec Sarah Ders. Et à la une, le scandale du lait infantile contaminé. 24 familles attaquent l'État en justice.
Elles réclament des analyses indépendantes, pas faites par Nestlé, pour établir un lien entre la consommation des laits infantiles et les hospitalisations des nourrissons. La présence ou non de la toxine céréulide dangereuse. Deux bébés sont morts après avoir consommé du lait. Après de nouvelles révélations dans l'affaire Jeffrey Epstein, une association demande la réouverture de l'enquête pénale en France, notamment pour découvrir si l'appartement parisien du milliardaire américain a été le théâtre de crimes sexuels sur le sol français et donc identifier d'éventuelles victimes. Les bovins seront de nouveau vaccinés cette année contre la dermatose nodulaire contagieuse dans les quatre régions les plus touchées, en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Ubisoft s'enfonce dans la crise avec une grève de 3 jours. L'entreprise en pleine restructuration a annoncé fin janvier la suppression de 200 postes au siège du géant français du jeu vidéo. Rassemblement prévu à 14h devant à Saint-Mandé.
C'est un meurtre qui a profondément choqué Marseille pour sa violence et pour le profil du suspect, le meurtre de Nessim Ramdane. Un chauffeur VTC abattu au volant de sa voiture, c'était en octobre 2024. Le suspect est un adolescent, il avait à peine 14 ans, recruté comme tueur à gages par un détenu se présentant de la DZN Mafia, qui l'avait ensuite dénoncé. L'adolescent avait commandé ce VTC pour exécuter son contrat. Il est jugé à partir d'aujourd'hui à huis clos. À Paris pendant 3 jours devant le tribunal pour enfants. Et lui qui voulait être nettoyeur fera face à la famille de la victime. Mathilde Vinceneux, vous avez rencontré pour France Info la compagne de Nessim Ramdane.
Nessim Ramdan, 37 ans, n'avait rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Entraîneur de foot amateur, il cumulait les emplois et avait choisi de déménager pour éloigner ses trois enfants de la violence, raconte Mélanie, sa compagne.
On a quitté Marseille pour ça. On n'était pas loin des quartiers. On a grandi nous-mêmes dans des quartiers.
Et pourtant, Nessim Ramdan a été tué d'une balle dans la tête au petit matin alors qu'il conduisait dans son VTC un adolescent de 14 ans. Le mineur explique qu'il cherchait la cible qu'il devait abattre quand il a finalement tiré sur le chauffeur. Mélanie, elle, se dit terrorisée à l'idée qu'un jour ses enfants comprennent que leur père a été tué par un autre enfant à peine plus âgé qu'eux.
Pourquoi il a fait ça? Ça pourrait être mon fils, quoi, en fait. Mes fils, ils ont 12 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de mes enfants maintenant.
Aide-soignante, Mélanie n'arrive plus à travailler et doit gérer seule ses trois enfants. Comment accompagner ses victimes, demande son avocate, maître Anne Santana-Marc.
Devant la recrudescence de ces victimes dites collatérales du narcotrafic, pourquoi ne pas envisager un statut, une protection par l'État de ces enfants qui se retrouvent, en tout cas pour ceux de Nessim, orphelins de père.
Ce meurtre doit tous nous interroger, martèle l'avocate. Il pose aussi la question du rajeunissement des criminels. Comment un ado de 14 ans a-t-il pu devenir tueur à gages ?
Témoignage recueilli par Mathilde Vinceneux. Il est 5h49 et c'est l'heure du choix de France Info. Les vacances scolaires ont commencé pour la zone A et vous allez peut-être les passer ces vacances à la neige, la montagne qui attire beaucoup de visiteurs et aussi de plus en plus d'investisseurs immobiliers. Résultat, des communes où les habitants à l'année n'arrivent plus à se loger. Bonjour Marina Capitaine.
Bonjour.
Spécialiste logement de France Info, vous nous emmenez Marina au cœur d'un site de moyenne montagne qui est de plus en plus prisé, les Vosges.
Sous mes yeux, le magnifique lac niché au creux des massifs de sapins et puis un tout petit peu plus loin, les pistes de ski. Nous sommes à Gérardmer. Attention, ne prononcez pas Gérardmer, ça irrite les habitants, les Géromois. Pour eux, c'est la prononciation des touristes qui viennent remplir les chalets en Airbnb. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils font flamber les prix de l'immobilier. Selon les sources, 30 à 40% de hausse enregistrée sur ces 5 dernières années. Alors pour en parler, je vais rencontrer l'un de ces Géromois, justement, qui va me servir de guide.
Je m'appelle Vincent Mougel, donc je suis né à Gérardmer dans les années 73. J'ai dans le but de construire une maison à côté de chez mes parents. Sur le coteau sur lequel on est en train de traverser, qui est le coteau de Larrier, les maisons vendues en 2025, c'est une moyenne de l'ordre de 500 000 euros.
Alors juste, pardon, 500 000 euros versus combien allait il y a 10 ans ?
Ah, on était de l'ordre de peut-être 200 000 euros.
Donc on a 200 000 euros.
Oui. La majorité des maisons, on les volait fermées. On peut en conclure que ce sont des résidences secondaires. Les chalets qu'on a croisés, ce sont des énormes chalets qui peuvent recevoir plus de 10 personnes. Ce qui fait que pour une famille, ça ne sert à rien d'acheter.
Alors là, j'avale ma salive parce qu'on monte un petit peu, même oui. Si Gérardmer, c'est pas le Mont Blanc non plus. Mais là, on est en train de gagner un peu en altitude.
Voilà, oui. Donc là, on arrive à cette fameuse règle qui a été émise par le dernier plan local d'urbanisme en 2023, avec une interdiction complète de construire au-dessus de 700 mètres.
Et oui, c'est la réponse qu'a trouvée la mairie à cette spirale immobilière. Interdire toute construction au-delà de 700 mètres d'altitude, ça représente 80% du territoire de la commune. Mais pour beaucoup de Géromois, c'est une double peine, puisque maintenant que les résidences secondaires, les locations de courte durée représentent la moitié des bâtiments, tout est gelé.
On va passer juste après devant une petite école de quartier. Et cette école, à l'heure actuelle, il ne reste plus que deux classes. Et le fait que plus personne ne peut ni acheter ni construire, on est quasiment sûr que cette école, elle va mourir d'ici peu.
Vincent Mougel, lui, ce qu'il voudrait, c'est construire sur le terrain que lui a donné son père. Le permis lui a été refusé en vertu des 700 mètres. Il n'a donc plus qu'à espérer un détricotage de la règle, peut-être à la faveur d'un changement de maire le mois prochain.
Et il n'est pas le seul habitant de Gérardmer à penser que cette règle farfelue et contre-productive. Marina, est-ce que c'est la seule décision prise pour lutter contre cette crise du logement ?
Non, il y a aussi depuis deux ans une majoration de 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et devinez quoi ? Elle fait aussi des mécontents, les propriétaires concernés. Ils sont en train de créer une association pour faire entendre leur voix. L'un d'entre eux m'accueille dans sa grande maison blanche avec...
une vue sur le lac et sur les montagnes avoisinantes, ainsi que les pistes de ski.
Il s'appelle Emmanuel Roussa.
C'est sûr que Gérardmer est devenue une ville très chère. Il y a énormément de résidences secondaires. C'est aussi ces résidences secondaires qui font vivre en grande partie le commerce. Donc c'est quand même important de remercier ces gens-là. Bien sûr, ils font des locations, mais qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Mais maintenant, ils veulent absolument un petit peu amortir toutes ces taxes nouvelles qui leur sont tombées dessus.
Pendant ce temps, Gérardmer se vide, moins de 8000 habitants aujourd'hui contre 9400 en 2010. Les jeunes actifs, comme Lucie, ne s'imaginent pas construire leur vie ici.
Quand j'ai cherché un appartement, ça a été assez compliqué. Il y avait très peu d'offres, autant en location qu'en achat. Parce qu'on a cherché pour acheter à un moment donné et c'est totalement inabordable. Si un jour je veux acheter, je suis obligée de partir de Gérardmer. Gérardmer, c'est une ville qui a un énorme potentiel. Il y a beaucoup de choses à y faire. C'est un cadre de vie qui est magnifique. C'est dommage que de nouvelles personnes ne peuvent pas en profiter, ne peuvent pas s'installer ici. Ça fait peur pour l'avenir, parce que si la population ne peut pas se renouveler, si la jeunesse ne peut pas venir, qu'est-ce que Gérardmer va devenir à terme, quoi.
Des stations en crise du logement comme Gérardmer, il y en a plein. Selon les chiffres de Se Loger, le prix du mètre carré a grimpé en 5 ans de 23% dans le Jura, 19% dans les Alpes du Nord, 18% dans les Pyrénées.
Merci beaucoup Marina Capitaine pour le choix de France Info. Un titre inédit de Linkin Park dans la playlist de Sarah Ders qui arrive. D'abord l'actu éco, c'est avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'éco avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
L'actu éco en trois titres. On commence avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, qui a infligé l'année dernière un montant record d'amende.
Oui, 487 millions d'euros précisément, essentiellement liés à deux importantes sanctions prononcées contre Google et la plateforme chinoise Shein. La CNIL l'a prononcé au total dans le courant de l'année dernière 87 sanctions. Alors Google a écopé d'une amende de 325 millions d'euros et Shein 150 millions, tous deux pour non-respect de la législation sur les cookies. Ces traceurs essentiels au secteur de la publicité en ligne et intégrés au modèle économique de nombreuses plateformes font l'objet depuis plusieurs années maintenant d'un contrôle renforcé par les autorités françaises.
2025 a été une année faste aussi pour le crédit immobilier.
Oui, les Français qui ont pu emprunter, en tout cas l'année dernière, ont souscrit 147 milliards d'euros de crédit pour investir dans la pierre. Mouvement aidé par la baisse des taux d'intérêt. Ce rebond souligné par la Banque de France est d'autant plus marquant que les crédits immobiliers avaient connu en 2024 son point bas sur les 10 dernières années.
Le youtubeur MrBeast investit dans le secteur bancaire.
Oui, MrBeast, présenté comme le youtubeur le plus suivi dans le monde, va racheter la jeune banque en ligne Step, qui revendique plus de 7 millions de clients, montant de la transaction inconnue pour l'instant. En tout cas, cet investissement marque une nouvelle étape de la diversification de l'entrepreneur américain. Depuis sa création en 2018, Step a levé sur les marchés plus de 500 millions de dollars, dont 300 sous forme de dettes et d'actions.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Je vous parlais à l'instant de la Banque de France. Eh bien, elle va changer de gouverneur en juin prochain. L'actuel patron de l'institution, François Villeroy de Gallo, va en effet passer la main un an avant la fin officielle de son mandat. C'est un choix personnel qui ne remet pas en question le rôle de l'institution monétaire. François Villeroy de Gallo va rejoindre le milieu associatif.
Merci Emmanuel Cuny. Et puis je rajoute cet autre changement à la tête d'une institution de notre pays, à l'arrivée à la tête de la Cour des comptes d'Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui va donc arriver à la tête, à la première présidence de cette institution. Merci encore. Emmanuel Cuny, à 5h56, c'est l'heure de la playlist de Sarah Ders et vous nous parlez d'un morceau du groupe Linkin Park qui est tombé dans l'oubli pendant 20 ans.
Et il porte bien son nom, Lost, sorti le 10 février 2023, près de 20 ans après la sortie de l'album Meteora, avec cette voix inimitable. Pour l'anniversaire de l'album, mélange de rock et de nu metal, le groupe californien gratte dans ses archives et retrouve plein de démos, de live et d'inédits, dont ce titre Lost, où l'on retrouve la voix de Chester Bennington. Il s'est suicidé en juillet 2017. Somewhere I Belong, extrait du deuxième album, Meteora, qui se vend en 2003 à plus de 27 millions d'exemplaires dans le monde, avec un autre titre, The Titre, Numb, pincement au cœur pour tous les adolescents des années 2000. «
La dernière apparition de Linkin Park et surtout de Chester Bennington remonte au festival de Hellfest le 18 juin 2017. Avec ce live et From the Inside. Et depuis la mort de son chanteur, le groupe américain n'a plus jamais joué en concert One More Light, qui parle de deuil et surtout un titre en son hommage selon les membres du groupe. Not to hurt anymore. We saw brilliance when the world. Linkin Park qui sera donc en concert pour tous les fans à Lyon le 16 juin prochain.
Vous y serez, Sarah Ders ?
Bien sûr.
Vous avez pris vos billets ? Bon, très bien, je vais essayer de voir s'il en reste. Merci beaucoup, Sarah Ders, pour la playlist du jour. Et c'est l'heure de la météo de Christine Peña.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Bon, alors on n'a pas chanté parce qu'il y a assez de pluie comme
oui,
ça.
Oui,
oh,
bah, c'est pas la peine
et
d'en
puis,
rajouter.
On commence aussi à surveiller le vent, Christine Peña.
Eh bien oui, le vent qui va commencer à souffler très fort à 90 km/h dès ce soir, la nuit prochaine, sur la côte atlantique, sur le littoral. Et puis c'est dans la nuit de mercredi à jeudi où il va allègrement dépasser les 100 km/h. Nous aurons certainement une tempête. Alors pour l'instant, la vigilance est jaune pour le vent. On a toujours du orange pour les crues. C'est la pluie qui nous intéresse aujourd'hui. Les perturbations s'enchaîne de plus en plus vite. Nous avons pas mal de neige de prévu encore en montagne et notamment sur les Pyrénées, mais c'est vraiment sur les Alpes qui neige le plus dès ce matin. Cet après-midi, petite accalmie avant la reprise ce soir. Nous avons ces deux perturbations qui s'enchaînent. Celle d'hier est toujours sur l'est du pays. La nouvelle est déjà sur l'ouest entre la Bretagne et l'Aquitaine et les Pyrénées. Et nous avons ces pluies très soutenues, les plus soutenues qui tomberont entre le sud-ouest et l'Auvergne, également l'Occitanie. Les températures, pas de gelée ce matin. Il fait 1 degré à Strasbourg, on n'est pas loin quand même. 8 degrés à Rouen, à Nice, à Bastia, à Abbeville, à Perpignan. 8 degrés, c'est assez homogène. 10 degrés à Paris, le plus doux pour Bordeaux et Biarritz, 13 degrés. Et le plus doux cet après-midi, ça sera encore pour la Côte Basque, 18 degrés attendus.